La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Bonjour, réouverture des salles, expositions, concerts, nous avons envie de réfléchir sur l'art avec Jacques Maritain en cette fin du mois de mai. L'art. Avec l'art, nous touchons chez Jacques Maritain à un des trois piliers de son œuvre. Je rappelle, le premier pilier, c'est la spéculation, la métaphysique, qui correspond à l'intellect spéculatif. Le deuxième pilier dans l'intellect pratique, c'est la morale. Nous la quittons. Le mois dernier, nous avons vu trois systèmes de morale, Socrate, Platon, Aristote. Et le troisième pilier, c'est l'art, qui fait partie de l'intellect pratique et qui, chez Maritain, forme une sorte de narthex. On a en 1920 art et scolastique et en 1953 l'intuition créatrice dans l'art et la poésie. Et c'est autour de cette œuvre que j'aimerais que nous passions trois séances pour comprendre ce qu'il peut voir d'intéressant dans la modernité. Modernité qu'il fait remonter à la Renaissance, mais qui s'appuie aussi sur l'art du XXe siècle, avec des courants forts comme le dadaïsme, le surréalisme, c'est-à-dire une déconstruction de l'art classique. Alors, que nous dit-il dans l'intuition créatrice et l'art et la poésie ? Long volume qui est agrémenté de photos et de textes. Ce long volume est une synthèse à partir de 6 conférences qu'il a prononcées l'année précédente, donc en 1952, à la National Gallery de Washington. Et ces pages réfléchissent sur le rapport entre l'artiste créateur et sa création. On est donc très très loin d'une vision hegelienne ou kantienne où le point de vue adopté est celui de celui qui reçoit l'œuvre créée, le spectateur, l'auditeur. Le point de vue de Maritain est celui du créateur. Comment se crée une œuvre d'art ? Par quel moyen humain peut-elle advenir du rien à quelque chose ? Que se passe-t-il au plan de l'intelligence ? Que se passe-t-il dans la jonction entre l'intelligence, le sens interne qu'est la mémoire ou l'imagination, et le sens externe qui permet au pinceau de peindre, à la gouge de sculpter et à la plume d'écrire la partition ? Maritain ouvre l'intuition créatrice dans l'art et la poésie par une grande réflexion sur le rapport entre homme et nature. Autrement dit, entre sujet et objet. Et il va comparer ce rapport entre l'Orient et l'Occident. Comment l'homme occidental appréhende-t-il le rapport du soi à l'objet ? Eh bien, c'est tout simplement en mettant l'accent tonique, on va dire, du mot sur le soi. Au contraire, l'homme oriental va mettre l'accent tonique sur la chose. Je vais vous citer un extrait de ces pages où Jacques Maritain s'attache à décrire ce qu'est la vie de l'artiste créateur en Inde puis en Chine. Le peintre contemplatif chinois devient un avec les choses, non pour se laisser emporter par leur courant générateur, mais pour saisir l'esprit qui leur est intérieur. Il les attire en lui. Il suggère leur signification spirituelle, laissant de côté tout le débordement charnel de formes et de couleurs, toute la luxuriance du détail ou de l'ornement qui rassasie les sens. Il s'efforce de rendre les choses plus parfaitement elles-mêmes, sur la soie ou le papier, qu'elles ne le sont en elles-mêmes, et de révéler en même temps leur affinité avec l'âme humaine. Il jouit de leur beauté intérieure et amène le spectateur à la deviner. C'est de cette façon qu'il est, comme je le disais, occupé à capturer les choses. Occupé à capturer les choses, tel est l'artiste oriental. Il va pouvoir les styliser, les évoquer, les nuancer, faire tout dans un geste de respiration. On sait que le pinceau s'appuie sur la respiration dans l'art chinois. L'homme occidental, au contraire, est du côté du fabricant. Il ne faut pas être péjoratif, mais sa conception, surtout accusée dans ce sens-là depuis la Renaissance, où il y a une maîtrise de l'homme occidental sur le monde, l'art est celui de quelqu'un qui va aller exactement dans le mouvement opposé, qui part du soi pour faire, pour extérioriser. Regardons ce que dit Jacques Maritain de l'art grec. Pour revenir à l'art hellénique, nous savons à quel point il témoigne du miracle grec en tant qu'épiphanie de la raison humaine. L'homme et la raison affrontent l'assaut écrasant des puissances cosmiques et les embûches tendues par les cruelles ruses des dieux. Ils sont décidés à comprendre le mystère de cette nature implacable où ils sont enfermés et de cette vie à laquelle il vaudrait mieux n'être pas né. Armés des invisibles idées, ils luttent avec les choses. Orphée charme les fauves et est déchiré par les ménades. Le destin et la liberté se font face. Si conscient qu'il soit du pouvoir surhumain, divin, magique ou dionysiaque, qui est inhérent aux choses, l'art est décidé à découvrir l'intelligibilité des choses et à dégager leur connivence avec la raison. Le point de vue est radicalement autre. Alors, pour faire un lien avec le congrès mission que vous pouvez réécouter par podcast, ce congrès mission de 2020 avait pour thème « L'art peut-il encore conduire les cœurs à Dieu ? L'Église a-t-elle perdu les artistes ?» Vous avez sur les antennes, sur la table, Luc de Moustier, sculpteur, qui discute avec Aude de Kéros, Pierre Tecky, Jean-Michel Blore. Eh bien, le point de vue, c'est que l'art permet de penser autrement, de déconnecter, comme disait l'un des intervenants, de l'apprentissage rationnel que l'on a partout dans la vie et d'ouvrir une brèche pour penser avec un autre sens, qui peut être l'imagination, le sens, une autre expression. C'est bien une parole d'homme occidental, puisqu'il s'agit ici de comprendre le monde et les choses dans un rapport qui reste rationnel, il s'agit bien de la raison, pour les Grecs elle est fondamentale, mais avec un autre moyen d'expression qui n'est pas opposé à la raison, qui est englobé par l'intelligence et qui est d'une manière, certaine manière adossé à la raison. Comment Maritain va-t-il caractériser ces deux pôles ? Eh bien, il va parler de l'avènement du soi pour l'occidental et de la prégnance de la chose pour l'homme oriental, l'artiste oriental. Et ce qui va intéresser Maritain, c'est cet avènement du soi qui va prendre une surenchère avec la modernité. Comment définir la modernité ? Bien sûr, la Renaissance est la première étape, mais vous avez une autre étape que l'on pourrait caractériser avec la ligne baudelairienne. Quand Baudelaire écrit les fleurs du mal, il n'écrit pas les fleurs du bien. Or, pour chacun d'entre vous, ou d'entre nous, quand vous cueillez une jolie fleur au printemps, vous êtes heureux, vous avez l'impression que c'est bien, bon, beau, bref, vous posez inconsciemment une équation entre trois transcendentaux au moins, si ce n'est plus. Les transcendentaux hérités de Platon, c'est l'être, l'un, le beau, le vrai, le bon. En écrivant les fleurs du mal, Baudelaire en quelque sorte casse l'équation entre les transcendentaux, équation ou communication des transcendentaux entre eux. Il casse pour dire qu'on peut faire les fleurs du mal. Donc, tout ce qui est esthétique ne correspond pas à l'éthique ni au bien suprême. Et vous le savez, à une charogne va être un poème qui donnera une esthétique du lait, spleen, une esthétique de l'état métaphysique de déréliction, etc., etc. C'est donc avec Baudelaire qu'on peut voir une fracture vers la nouvelle modernité qui dit quoi ? Eh bien, à la fin de Harmonie du soir, vous avez ce magnifique vers « Ton souvenir en moi, lui, comme un ostensoir ». Le souvenir de quoi ? Tout simplement du christianisme, c'est-à-dire deux transcendentaux qui s'articulent sur l'ultime transcendantal qui est Dieu lui-même, Dieu a pour acte d'exister, son essence c'est d'exister, il est beau, bon, bien, et il est l'être et l'existence. Tandis que, avec Baudelaire, ce souvenir du christianisme ne peut que vivre que par l'artiste qui est devenu le nouveau prêtre, et le vers le dit de manière assez explicite, le moi, le soi du poète est au centre de cet alexandrin. Ton souvenir en moi, lui, comme un ostensoir. Et ostensoir va rimer avec reposoir et avec harmonie du soir. C'est-à-dire la fin, le déclin de cette équation des transcendentaux. Dès lors, le soi de l'artiste va être tellement prégnant que la modernité pourrait être caractérisée par la déconstruction, ce que voit le moi, le soi, dans la contestation qu'il peut avoir du monde. Et d'un monde qui, allant vers une mécanisation, une idéologisation de plus en plus globalisante, voire la montée des totalitarismes au XXe siècle, il n'y a qu'une seule solution, c'est l'art contestataire. Le « da, da » de Tristan Tzara, ce Roumain qui dit « oui, oui », c'est-à-dire un « oui » qui s'auto condense et qui, dans cette mise en abîme du « da », s'auto-détruit. En 1924, manifeste du surréalisme, André Breton, on a une autre manière de dire non, en faisant appel à quoi ? Tout simplement à l'inconscient freudien, dans l'écriture de la peinture surréaliste ou de la littérature surréaliste. Je pense à un jeu, l'écriture automatique, le cadavre exquis, qui veulent faire appel à ces forces de l'inconscient, qui sont une autre manière de décrier la raison. Nous allons revenir sur cet avènement du soi après quelques lignes de Béla Bartók. Pourquoi Béla Bartók ? Parce que c'est un Hongrois qui est allé colliger la musique roumaine de Transylvanie. Et c'est une musique chère à mon cœur parce que ce folklore, souvent à des mesures impaires, de 7 temps, des tonalités tout à fait inattendues, ce sont des modes. Et à partir de ce folklore, il y a une transfiguration, pour ainsi dire, qui a permis à des compositeurs de recréer une forme d'art contemporain.
La philosophie réaliste, Claire Bressolet.
Soi ou chose. Maritain tranche à la fin donc de sa première partie dans l'intuition créatrice, dans l'art et la poésie, et il va basculer vers une interrogation philosophique. Voilà sa conclusion. D'une part, comme nous l'avons vu à propos de l'art oriental, quand l'art uniquement tourné vers les choses parvient à révéler les choses et leur sens caché, il révèle aussi, obscurément et malgré lui, la subjectivité créatrice de l'artiste. Tandis qu'elle s'efforce de saisir et de manifester ce qui importe le plus dans les choses et qui est la secrète signification dont elles vivent, la perception poétique qui anime l'art enveloppe en même temps une révélation et une manifestation, si involontaire soit-elle, du soi humain. D'autre part, quand l'art tourné avant tout vers le soi de l'artiste parvient à révéler la subjectivité créatrice, il révèle obscurément du même coup les choses, leurs aspects et leurs sens cachés, et en vérité, avec un plus grand pouvoir de pénétration, j'entends dans les profondeurs de cet être corporel lui-même, et de cette nature que nos mains touchent. Tandis qu'elle s'efforce de dévoiler et de manifester le soi de l'artiste, la perception poétique qui anime l'art saisit et manifeste en même temps ce qui importe le plus dans les choses, la réalité transapparente et la secrète signification dont elles vivent. Comme souvent, quand Maritain a une polarité entre deux termes, il ne va pas faire thèse, antithèse, synthèse. On n'est pas dans une dialectique à l'Hegel. Il va simplement prendre les deux termes et s'élever plus haut prendre un point de vue aquilin, nous l'avions déjà vu pour la morale. Il cherche la juste mesure en s'élevant. Et ici, le point commun aux deux situations, c'est qu'au fond, il s'agit toujours de révéler quelque chose du soi et quelque chose des choses. Et bien ce quelque chose du soi et quelque chose des choses est un point commun. Voilà la conclusion philosophique qui va être la question motrice de toute sa réflexion sur l'art. Qu'est-ce que cela signifie ? Quelle est la portée philosophique de cette conclusion de fait ? Notre enquête descriptive et inductive nous amène à penser qu'à la racine de l'acte créateur, il doit y avoir un procès intellectuel tout à fait particulier, sans parallèle dans la raison logique, par lequel les choses et le soi sont saisies ensemble au moyen d'une sorte d'expérience ou de connaissance qui n'a pas d'expression conceptuelle et n'est exprimée que dans l'œuvre de l'artiste. Faut-il penser que dans une telle expérience, créatrice par nature, les choses sont saisies dans le soi et le soi dans les choses, et que la subjectivité devient un moyen de s'emparer en cachette de la face intérieure des choses. Sommes-nous là en présence de cette connaissance poétique ou intuition poétique qui sera l'objet de notre réflexion ? Et il termine avec cette magnifique évocation. Voyez ces cerfs et ces bisons peints sur les parois des grottes préhistoriques, avec l'admirable et infaillible élan d'une imagination vierge. Ce sont les premières réussites de l'art humain et de l'intuition poétique. Par la vertu du signe, ils nous rendent présents un aspect de la forme et de la vie animale et du monde de la chasse. Et ils nous rendent présents l'esprit de ces inconnus qui en ont tracé les contours. Et ils nous disent que ceux qui les ont faits étaient des hommes. Ils nous révèlent un soi créateur doué d'une intelligence immortelle, poursuivant des fins délibérément voulues et capable de sentir la beauté. Sentir la beauté, telle pourrait être la définition de l'homme, parce qu'il est vrai qu'un chat, un chien, ne voit pas de différence entre un Picasso et un tronc d'arbre. Sentir la beauté, qualité profondément humaine, qui permet à Maritain de passer à son deuxième chapitre. Le deuxième chapitre de l'intuition créatrice dans l'art et la poésie est un écho à Art scolastique de 1920. Pourquoi ? Parce qu'il va regarder la vertu pratique de l'art. L'art a des règles. L'art est une vertu de l'intellect pratique. Pour nous, c'est compliqué. Mais finalement, en opposant les règles de l'art à l'intuition créatrice, Maritain va mettre en relief un combat, c'est-à-dire une tension qui justement sera la raison d'être de l'intuition créatrice. Il faut en quelque sorte une résistance pour que l'intuition puisse advenir. Je vais prendre une comparaison que tout le monde pourra avoir vécue. Quand vous faites un travail intellectuel ou manuel, c'est souvent dans la dernière minute, dans la dernière seconde, au moment où vous voulez tout lâcher, et vous vous dites « non, allez, j'y reste encore un peu ». Pourtant, on a envie de se lever, d'aller boire, d'aller aux toilettes, d'arrêter, parce qu'on est fatigué. Il y a mille raisons d'arrêter. Et si on tient un tout petit peu, comme par miracle, c'est là qu'il y a l'idée de génie, la résolution d'une équation mathématique, l'idée pour la rédaction d'un texte philosophique ou d'une création quand vous faites des poèmes, ou l'idée « ah, ça s'enclenche, mes deux planches qui ne tenaient pas brutalement, on ne sait pas pourquoi, brusquement, ou celui qui vient et qui arrache le clou qu'on essayait depuis 2 heures d'arracher. » En fait, c'est qu'il se passe un processus très humain, c'est que de l'attention naît une sorte d'intuition, de troisième énergie, de troisième dimension propre à l'homme, qui solutionne des choses parce qu'elle ne passe pas par le conscient. Elle va passer par le préconscient ou l'inconscient spirituel que nous allons développer juste après ces quelques mesures de Béla Bartók. les règles de l'art et intuition créatrice sont en conflit. Et ils sont en conflit et ils permettent à Maritain de mettre en évidence qu'en nous, il y a un préconscient spirituel. Freud a mis en place, a révélé l'existence d'un préconscient qui est un préconscient appuyé sur les sens. Alors, vous êtes auditeur, ce n'est pas facile de vous faire un schéma par la radio, mais allons-y gaiement. Vous représentez un cône. Vous mettez vos mains jointes en l'air et vous avez les deux doigts vers le haut, les paumes vers le bas, ça vous fait un triangle tourné vers le ciel. Ce cône, c'est le cône des sens. Dans ce cône, à l'intérieur de ce cône, vous avez un deuxième qui va être celui des sens internes, mémoire, imagination. Et à l'intérieur, un troisième qui est celui du concept, de la raison. Et ces trois cônes, qui sont comme des poupées russes, sont tous les trois tenus en haut par le point formé par le haut de vos mains, par le haut du triangle, qui est le soi, ce point nodal où le soi existe. Eh bien, l'inconscient freudien, il va partir du cône extérieur qui dépasse les autres et qui les englobe comme la plus grande des poupées russes. Et ce cône qui est plat à sa base, Maritain, représente une zone qui est l'inconscient freudien. Donc c'est un inconscient pulsionnel, fondé sur les sens. Maritain met en évidence l'existence d'un inconscient spirituel qui, lui, va partir du soi, de ce point nodal qui relie les trois cônes, et il touche, cet inconscient, les trois dimensions de l'homme, le sens, les sens internes et le concept. Eh bien, c'est dans ce préconscient spirituel que l'intuition créatrice va naître. Et elle va naître donc au cœur du soi profond. Cela rejoint l'idée d'Aristote, selon laquelle la vraie vie n'est pas la vie quotidienne, la vie de tous les jours. On peut y passer un temps fou, faire la queue chez Orange ou chez Fruits si vous y êtes, aller chercher la voiture au garage chez le garagiste, faire les courses, faire la queue ensuite à Leclerc, à Intermarché ou je ne sais quoi, courir dans tous les sens du matin au soir, oublier ses codes sur Internet, on les retrouver, partir avec les clés, avec 3 masques, 18 armures et 20 gels. Ça peut nous occuper toute la journée. Mais on a une autre chose à faire, c'est à vivre de la vie intellectuelle. Eh bien, Maritain, reprenant cette idée aristotélicienne que la vraie vie est intérieure, va tout fonder là-dessus, sur ce préconscient spirituel qui sera le lieu de l'intuition créatrice. Et vous comprenez mieux le conflit. Les règles de l'art, elles sont extérieures, elles appartiennent à ce qui est la raison. Mais en même temps, j'ai des règles. Je ne peux pas faire n'importe quoi avec mon papier d'aquarelle. Je ne peux pas faire n'importe quoi avec mon marbre. Michel-Ange le savait, qui à 24 ans trouva un os, une sorte de concrétion, quand il eut fini la Pietà. Elle était si belle, il restait le visage de la Vierge. Que faire avec cette concrétion sur un si beau marbre? Il en fit une larme, parce qu'il connaissait parfaitement les règles de l'art et que tout casser pour cette concrétion, c'était prendre trop de risques. La larme, vous pouvez la voir en entrant à Saint-Pierre de Rome, au Vatican. À la semaine prochaine pour mieux saisir les enjeux de cette inconscience spirituelle.